La communication scientifique est en train de changer très rapidement et les professionnels de l'information dans les entreprises privées et d'autres secteurs cherchent de nouvelles façons d'offrir des services à leurs usagers. Les réseaux sociaux, les appareils mobiles, le data mining, les technologies sémantiques et d'autres développements sont en train de construire un nouvel environnement pour l'édition. Cependant, l'ancienne ressource d'articles scientifiques semble ne plus avoir de concurrents. Des nouveaux défis et opportunités pour les spécialistes de l'information seront discutés en détail à la conférence Pharma Biomed qui aura lieu à Venise dans quelques jours. Bonjour et bienvenue à la programmation spéciale des Rights Direct sur Beyond the Book, la série des podcasts proposée par Copyright Clearance Center, CCC. Je me présente, je m'appelle Victoriano Colodron et je travaille pour Rights Direct, la filiale européenne du CCC. Je m'adresse à vous de Madrid en Espagne et aujourd'hui je suis accompagné à l'autre bout du fil à Paris par Hervé Basset, un spécialiste français de la gestion de l'information scientifique qui collabore régulièrement dans des magazines comme Research Information et Information Today et qui a deux blogs très actifs, un en anglais et l'autre en français. Merci d'être avec nous et bienvenue à Beyond the Book.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Diplômé en sciences de l'information, Hervé Basset travaille comme bibliothécaire dans une très grande société pharmaceutique depuis 2001. Avant cela, il était le directeur d'une bibliothèque scientifique dans une université privée pendant 8 ans. De plus, Hervé est consultant freelance spécialisé dans les services en ligne, comme les bases de données bibliographiques et les plateformes de journaux numériques. Hervé, je voudrais tout d'abord connaître votre opinion concernant l'augmentation de l'usage professionnel des réseaux sociaux par les chercheurs travaillant dans le secteur privé. Dans quelle mesure pensez-vous que ce phénomène peut affecter l'utilisation des sources d'informations plus traditionnelles comme les journaux scientifiques ?
Il y a quelques années, certains experts et gourous ont prédit que le Web 2.0 aurait un impact énorme sur la communication scientifique et que les SFIC seraient les leaders du Web 2.0. En fait, à l'exception du mouvement Open Access, l'impact des technologies 2.0 et des services, l'impact il est relativement faible sur le monde de la science. Surtout pour les chercheurs en entreprise, il y a plus d'obstacles que d'avantages. Pour des raisons de confidentialité, la plupart des grandes sociétés interdisent encore l'accès aux réseaux sociaux comme Facebook, YouTube ou Twitter. Les médias sociaux qui sont massivement adoptés au point de vue privé n'ont pas encore une grande valeur ajoutée au niveau de la vie professionnelle. Les blogs et les wikis scientifiques, par exemple, sont pas vraiment considérés comme des sources fiables. Pour ces aspects, les scientifiques, on pourrait dire, sont plutôt conservateurs. Les revues à comité de lecture et les bases de données payantes sont encore les modèles prédominants pour excellence.
Je pense que peut-être ça sera le cas aussi pour les réseaux sociaux scientifiques, les réseaux sociaux spécialisés. Parce qu'en plus des réseaux sociaux généraux, ces dernières années, on a assisté à la création de nombreux réseaux sociaux scientifiques. Diriez-vous, Hervé, que ces outils ont réussi à trouver leur place dans la communauté scientifique? Et pourriez-vous nous en donner un exemple?
Tout à fait. Dans les livres que nous sommes en train d'écrire avec un autre expert de la communication scientifique, un Anglais qui s'appelle David Stewart, nous essayons d'avoir une vision globale des réussites et aussi des échecs de ce qu'on appelle la science 2.0, pour revenir sur l'expression qui était utilisée avant 2010. En fait, nous avons découvert qu'il y a plus d'échecs que de réussites. Évidemment, quelques services ont un impact vraiment significatif. On peut citer Mendeley, Biomed Expert, My Experiment et bien sûr l'open access, le mouvement open access en général. Mais par contre, les mondes virtuels, la science, les réseaux sociaux scientifiques et les wikis sont des échecs complets pour le point de vue de la communication savante. Hein. Par exemple, Elsevier a arrêté son service SciTopics, un wiki scientifique, cette semaine. Il est amusant de noter que certains des succès du web 2.0 pour la science sont maintenant soutenus financièrement par l'édition scientifique traditionnelle.
Oui, c'est intéressant. Mais du point de vue des bibliothécaires, du documentaliste, comment est-ce que les bibliothécaires dans les entreprises réagissent à l'augmentation de l'utilisation des réseaux sociaux et du web 2.0 par les chercheurs? Et comment cela affecte-t-il les rôles des professionnels de la gestion de l'information?
Eh bien, ils répondent en démontrant la valeur réelle des services web pour les chercheurs et surtout pour l'entreprise. Beaucoup de chercheurs, évidemment, se tournent vers les services web gratuits, tels que Google Scholar, pour trouver de la littérature scientifique. Mais les bibliothécaires, justement, dans les entreprises, peuvent démontrer comment il est risqué pour l'entreprise en termes de confidentialité des données, par exemple, d'utiliser ces types d'outils et quelle est la faible efficacité de ces outils gratuits. Ou dit gratuit. Il a été démontré, par exemple, comment un chercheur peut perdre énormément de temps et donc l'argent de l'entreprise, finalement, en utilisant Google Scholar au lieu des bases de données payantes qui donnent accès à un contenu de grande qualité et avec des abonnements qui sont légalement souscrits par l'entreprise. La plupart du temps, les bibliothécaires, justement, sont vraiment les meilleurs conseillers en interne, car ils ont une bonne connaissance de ces médias sociaux et beaucoup d'expérience avec les services web gratuits.
L'accès à l'information scientifique par le biais des appareils mobiles sera aussi un sujet de discussion lors de la conférence Pharma Biomed. Pensez-vous, Hervé, que les chercheurs du secteur privé vont de plus en plus utiliser leurs tablettes et leurs smartphones pour leurs activités professionnelles? Et quels sont les challenges pour les documentalistes?
Évidemment, nous ressentons une forte demande des clients internes pour les iPads et les téléphones, les smartphones, en particulier aux États-Unis. Mais je pense que cette demande est plus liée à la curiosité et à la mode, on va dire, plus qu'à de réels besoins professionnels, en tout cas au jour d'aujourd'hui. En fait, utiliser un iPad, par exemple, pour un professionnel, est à l'heure actuelle un défi parce que l'environnement d'Apple n'est pas compatible avec le monde des standards Microsoft qui sont jusqu'à présent la norme dans la plupart des entreprises. Donc la dépendance au réseau sans fil, au réseau Wi-Fi, au service cloud, pour le moment, est difficilement gérable dans le contexte professionnel. Normalement, une fois encore, je pense qu'il est important de faire une distinction claire entre ce qui est à la mode, à la maison, et ce qui relève de l'efficacité au travail. Nous sommes ici aux limites de ce qu'on appelle la consumérisation de l'informatique. Quoi qu'il en soit, évidemment, la fourniture d'informations pour les appareils mobiles est sur la feuille de route de tous les projets des bibliothécaires et il est clair que c'est un défi pour l'avenir des professionnels de l'information de chercher les clients là où ils sont, évidemment.
Et maintenant, pour changer des sujets, dans vos blogs, et vous avez parfois averti des risques potentiels concernant l'usage de certaines sources gratuites d'informations scientifiques. Quel est votre avis sur cette question?
Le plus gros problème, je pense, est de considérer les services web dits gratuits comme comme des bases de données exhaustives. Évidemment, parce qu'ils sont gratuits, ils sont faciles à utiliser, rapides, accessibles de partout et à tout moment, on peut comprendre parfaitement pourquoi ce type d'outil séduit autant d'utilisateurs. Mais ces services n'indexent qu'une petite portion des publications scientifiques du monde. Et le souci pour les entreprises du monde du vivant, des sciences du vivant, ne peut pas satisfaire d'une information minimale. Ces entreprises doivent s'assurer que les chercheurs ont accès à toute la littérature qui est publiée. Ils ne peuvent pas se permettre de manquer une information critique qui peut concerner une molécule, une donnée clinique ou des problèmes de sécurité liés à des produits. C'est pourquoi les entreprises en fait investissent dans des bases de données payantes fournies par les étudiants scientifiques pour rester évidemment le plus compétitif.
Ma dernière question concerne le rôle des documentalistes dans ces paysages des changements. Comment voyez-vous, Hervé, l'avenir pour ces professionnels et quelle serait la clé pour qu'ils puissent continuer à apporter de la valeur ajoutée à leurs entreprises?
Je crois que plus que jamais, les chercheurs ont besoin des professionnels de l'information pour les aider dans cet environnement qui est si complexe où ils sont complètement perdus. Le monde de la communication scientifique est si confus désormais avec des modèles d'édition différents, avec des sites web aussi nombreux, qui sont ces chercheurs à peine capables de trier l'information et d'aller à la source appropriée. Je pense que le rôle de bibliothécaire est clairement en train de migrer vers une fonction de consultant en information. Les chercheurs et les chefs d'entreprise ont besoin d'avoir une personne référente pour donner des conseils et produire des lignes directrices en interne. La question des copyrights, par exemple, est tout à fait révélatrice. La situation est si compliquée pour les employés et les chefs d'entreprise, en particulier les entreprises multinationales, que la plupart d'entre eux n'appliquent pas les règles de base uniquement par méconnaissance. Je pense donc que le documentaliste est vraiment la personne appropriée dans l'entreprise pour publier ses indications, ses lignes directrices et mettre en œuvre, le cas échéant, des solutions internes pour éviter les problèmes juridiques aux entreprises.
Merci, Hervé. Ça a été un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui sur Beyond the Book. Merci beaucoup de votre présence.
Merci.
Et pour les auditeurs qui voudraient en savoir plus, je me permets de vous recommander les blogs d'Hervé sur, en anglais, scienceintelligence.wordpress.com et en français, intelligencescientifique.wordpress.com et aussi le site web de la conférence Pharma Biomed sur www.pharma-o-med.com. Beyond the Book est proposé par le Copyright Clearance Center, CCC, un courtier international en droit d'auteur pour les matériaux les plus demandés au monde, y compris des millions de livres papier et numériques, des journaux, magazines et revues, des images et des blogs. Rights Direct est la filiale européenne de CCC. Vous trouverez davantage d'informations sur www.rightsdirect.com. Vous pouvez aussi nous trouver sur Twitter. Au nom de tous ceux qui travaillent chez Rights Direct et Copyright Clearance Center, je vous remercie de votre visite sur Beyond the Book.